Demain est tout à fait à propos. Et je veux juste lire quelques versets dans Matthieu chapitre 2 pour ce qui est du récit. Donc Matthieu chapitre 2 verset 1 nous dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où le Christ devait naître. Et lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et c'était le prophète Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem, disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. En fait, c'est un gros menteur. Hein? Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, pas dans l'étable, hein? Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils en offrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, donc, et eux aussi, leur intention, c'était adorer le Sauveur. Certainement qu'ils étaient étonnés de ne pas trouver Jérusalem en fête. Et eux, ils avaient fait tout le déplacement. Ils imaginaient, hein, vous allez chez quelqu'un pour la fête. Vous dites, mais c'est l'anniversaire d'un tel, on va aller pour la fête. C'est sûr qu'il y a une fête et vous arrivez là, puis il n'y a rien du tout. C'est une vie normale. Vous pouvez être assez déçus. Mais eux, ils ont été jusqu'au bout, ils ont persévéré parce qu'ils avaient cette confiance. Voilà. Donc ce matin, nous voulons étudier, en fait je vous propose un thème, le sujet c'est le message intemporel de Gabriel, le message de Gabriel à Marie, donc le message de l'Annonciation, et nous voulons voir par ce moyen finalement qu'est-ce qui est vraiment arrivé, pourquoi tant de réjouissance. Et donc dans Luc chapitre 1, les versets 26 à 38, nous avons l'Annonciation, le récit de l'Annonciation, et nous allons en fait nous arrêter ce matin là méditer sur ce passage. Donc Luc chapitre 1 et au verset 26 nous dit: au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et un peu pour lui donner une confirmation, quelque chose de concret qui puisse certifier les paroles, eh bien l'ange lui dit, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Et là, je souligne, car rien n'est impossible à Dieu. À cela, Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Vous savez, l'épître aux Hébreux commence par ce rappel que Dieu avait parlé aux hommes de plusieurs manières, par les prophètes, par des songes, par des anges. Hein, c'est toute la révélation de la Bible et nous est présentée ici. Et l'une des manières utilisées, c'était les anges. Hein, les anges venaient et apportaient la parole, que ce soit à Abraham, que ce soit à d'autres. Ils ont reçu la parole par le biais d'un ange. Et surtout quand il s'agit d'Israël, c'était le plus souvent, c'était l'archange Gabriel. Et ici, l'ange Gabriel, donc certainement, c'est-à-dire Satan, hein, Lucifer avait été le plus glorieux, mais comme lui, il a été renvoyé du ciel, certainement que Gabriel se retrouve au premier rang, hein, avec l'archange Michel. Et ils sont là, et donc c'est pas seul un ange ordinaire, c'était le plus glorieux des anges qu'il y avait dans le ciel. C'est lui qui est envoyé avec ce message précis pour Marie. Et il se rend à Nazareth, et c'est un message très important pour elle. Mais aussi, le fait que ça nous a été rapporté, c'est important pour nous. C'est important que nous entendions ce message. Pas seulement Marie, pour qu'elle comprenne ce qui lui est arrivé, mais c'est important pour nous, pour que nous sachions ce qui est arrivé. Et c'est pour cela que nous allons nous arrêter justement sur ce passage, ce matin, et méditer. Parce que le message de Gabriel, eh bien, nous parle d'une naissance qui se distingue de toutes les autres naissances. Même si on prenait les naissances extraordinaires, hein, il y a des récits dans la Bible, des naissances, par exemple, d'une femme stérile qui enfante. C'était déjà un miracle. Il y a même encore plus que cela, il y a des femmes stériles qui ont dépassé l'âge de l'enfantement qui ont un enfant. Hein, pensez à Sarah, pensez à Élisabeth, et donc il y a ces naissances extraordinaires, mais cette naissance-là va être encore plus glorieuse. Alors, elle surpasse toutes les autres naissances, parce que c'est une vierge qui donne naissance à un fils. Hein, donc déjà c'est impossible, et deuxièmement, en plus, que ce soit un fils, c'est encore impossible, hein, parce que la femme ne porte pas le chromosome mâle, hein, donc c'est vraiment extraordinaire. Les naissances, les histoires de la naissance, Sarah qui enfante un fils, on a pu l'accepter. Que Élisabeth enfante un fils, c'est une histoire qu'on accepte. Mais que Marie, vierge, enfante un fils, alors là, c'est plus difficile à accepter. Ça bloque pour beaucoup. Hein, on s'arrête là, on dit, mais ça c'est... Non seulement, et puis c'est vrai que même à l'époque, hein, même Marie se rend compte que c'est pas possible. Elle dit, mais comment cela peut-il se faire? Et puis nous, nos connaissances actuelles, hein, nos connaissances du corps humain, eh bien, nous permettent de dire que c'est pas seulement que c'est pas probable, mais que c'est vraiment impossible. Hein, c'est pas possible du tout. Marie, aussi croyante qu'elle pouvait l'être, hein, on s'imagine qu'elle a été choisie parce qu'elle était croyante. Mais même Marie a dit, mais bon, je veux bien, hein, je veux bien, mais comment ce sera possible? Hein, elle dira au verset 34, on l'a lu, elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Et Marie savait qu'elle était vierge. Les autres, hein, les gens qui l'entourent, peuvent se faire des idées sur quelqu'un, mais la fille elle-même, elle sait si elle est vierge ou pas. Hein. Et il n'y avait aucune raison pour elle de mentir à un ange. Hein, on peut des fois mentir aux autres parce qu'il faut sauver la face, il faut préserver l'image, il faut sauver l'honneur de la famille, on peut dire des choses. Mais là, Marie, hein, quand elle dit, elle sait ce qu'elle est, chaque fille sait ce qu'elle est, et puis il y a un ange, ben, c'est pas la peine de mentir. Et elle dit, je comprends pas, vu ce que je sais de moi, je sais pas comment cela va se faire. Hein, donc c'est certain. Il y a des bruits qui courent comme quoi elle n'était peut-être pas vierge, elle était seulement jeune fille. Non, non, elle savait qu'elle était vierge. Sinon, elle n'aurait pas posé cette question. Et l'ange avait une réponse pour elle. Hein, et l'ange dit au verset 35, il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi ». La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc l'ange a dit, non, non, je suis d'accord avec toi, je sais que c'est impossible, c'est naturellement, ça ne va pas arriver, il n'y a pas de contredit, il n'y a pas de problème. C'est pour cela que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, va intervenir par le biais du Saint-Esprit pour que ce soit possible. Il n'a pas donné les mécaniques, il a seulement dit, voilà. C'est une intervention particulière de Dieu qui rendra la naissance possible. Hein, et Marie, bon, elle accepte. Elle croit parce que c'est Dieu qui le dit. Vous savez, c'est pas... oui, bien sûr, pour le cerveau, pour les connaissances scientifiques, pour les lois naturelles, c'est une impossibilité. Mais vous savez, lorsqu'on pense à la création de l'homme, hein, quand Dieu, il nous dit que Dieu a pris la poussière de la terre et puis l'a fait un homme, il faut quand même avoir un peu d'imagination, hein, pour voir comment ça a pu se passer, comment la matière peut devenir vivante alors que la vie n'existe pas dans la matière. Comment Dieu a donné à cet homme formé de poussière, de terre, il a donné des cellules, cellules qui chacune avait son code génétique et qui avait un moyen de se reproduire ce code. Il y avait des cellules qui étaient capables de lire les codes et de provoquer l'étape suivante. Et ça se fait des millions de fois dans la vie de chacun et puis dans le monde entier. Et comment cela, ce code-là, quand même, le code ADN, puisse être dans chaque cellule de cet être humain et qui fonctionne correctement pour que les êtres humains puissent déjà se développer, se maintenir en vie, les cellules sont en train de se remplacer constamment, et puis ensuite qu'on puisse se reproduire. Et vous savez, les hommes scientifiques qui veulent exclure Dieu de la chose, eh bien, ils ont pas d'autre explication. Hein. Ils ne savent pas comment expliquer cela. Comment, à partir de la matière, mais vous savez, il nous dit que Dieu a pris cette poussière et puis il a soufflé un souffle de vie. Il a donné même une âme à ce corps, cette âme qui permet à l'être humain d'avoir des sentiments, d'avoir des pensées, d'être conscient, d'avoir une volonté, de faire tout ce que l'homme fait, des choses extraordinaires, de point de vue d'art, architecture, de penser, se projeter dans l'avenir, faire des projets, tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune loi naturelle qui nous permet de croire que Adam a pu arriver en existence et être et donner l'humanité qu'on a. Hein? C'est pas une explosion, c'est pas le temps. Le temps ne s'est pas créé la vie à partir de la matière. Et vous savez, mais nous sommes là. Et ça, c'est tellement naturel qu'on trouve normal. Mais ça a été, ça a commencé à un certain moment. Et la Bible nous dit donc, celui qui a pu créer Adam, eh bien, il peut créer. Si je n'arrive pas à dépasser les premiers chapitres de Genèse, si je n'arrive pas à les croire, eh bien, c'est sûr que la naissance virginale de Christ devient une impossibilité. Nous, les êtres humains, on a des choses qui, pour nous, sont impossibles. Et tout ce qui rentre dans le cadre de l'impossible, eh bien, c'est impossible. Mais rappelez ce que l'ange dit à Marie, hein, verset 37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu n'a pas un domaine où il y a des choses impossibles. Dieu, l'impossible, ça n'existe pas chez lui. On dit bien en français, impossible n'est pas français. Mais c'est pas divin. Dieu ne peut pas, il n'y a rien d'impossible. On peut dire que c'est pas selon les lois de la nature. Et Jésus-Christ va montrer, hein, pendant toute sa vie, il y aura des miracles qui ne respectent pas les lois de la nature. Mais c'est ça, Dieu peut intervenir. Rien n'est impossible à Dieu. À partir du moment que j'accorde à Dieu ce pouvoir de faire ce qui nous est impossible, ce qui nous paraît impossible, eh bien, la naissance de Jésus devient possible. Hein. Si Dieu peut faire ce qui est impossible, donc la naissance de Jésus est possible. Et c'est à nous de... Le problème, c'est pas est-ce que Jésus a pu naître d'une vierge ou pas. La question, c'est Dieu, ton Dieu, de quoi est-ce qu'il est capable, hein? Est-ce que c'était le Dieu qui peut faire ce qui est impossible à nous? Et combien de fois, eh bien, nous pouvons regarder dans l'histoire et voir où Dieu a fait l'impossible. Mais tout ça, c'est pas juste pour nous étonner, hein. C'est pas Dieu a dit bon, ben, je vais faire un truc qui vraiment va les étonner, vraiment impossible, et puis ils vont rien comprendre, et puis voilà, comme ça, ils vont m'admirer. Bon, Dieu ne cherche pas cette admiration qu'on peut avoir lorsqu'un prestidigitateur fait quelque chose sur la scène, et puis on dit wow. Et on est là, Dieu n'a pas, il veut pas cette admiration-là, il n'a pas besoin. Et Jésus n'a pas cherché non plus. Il n'a pas fait des miracles juste pour entretenir la galerie. C'est pour ça que Hérode lui a dit, écoute, fais-moi un miracle. Et Jésus dit, non, moi je ne fais pas du spectacle, moi. J'accomplis la volonté de mon Père. Chaque chose que je fais a une raison. Et justement, cette naissance de Jésus de cette manière-là, c'était pas juste pour nous étonner, mais c'était parce qu'il y avait un plan. Dieu savait, tout ce que Dieu fait, et il est capable de faire l'impossible, mais parce qu'il a un projet qu'il veut réaliser. Et donc, il avait une raison pour intervenir dans le cours normal des choses. Regardez, vous voyez comment, dans ce passage, l'ange parle à Marie, lui dit, écoute, tu sais, cet enfant qui naîtra de toi, eh bien, au verset 32, il dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Il est au verset 35, à la fin du verset 35, il dit, il sera appelé fils de Dieu. Et puis, et en même temps, au verset 32, il nous dit, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alors, il est appelé fils du Très-Haut, fils de Dieu d'une part, et puis d'autre part, il est appelé fils de David. Et Et justement, c'est là le mystère de ce message, et c'est le mystère de la naissance de Christ, c'est que là, dans l'Annonciation, c'est pas seulement le fait qu'il y a un bébé qui va naître, et qui s'appelle Jésus, et qui sera tout mignon, tout beau, mais c'est le fait que cet enfant qui naîtra sera et Dieu et homme. Et pas moitié Dieu, moitié homme, mais 100% Dieu et 100% homme. Non, ça c'est une réalité, c'est pas quelque chose que je comprends, c'est quelque chose qu'il déclare. Hein, Jésus, c'est là, c'est pour ça qu'il est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. C'est 100%, Dieu était 100% présent en la personne de Jésus-Christ, et en même temps, et il suffisait de lire les évangiles, de voir que Jésus était 100% homme. Il y en a qui ont des problèmes avec cela, il y a des mouvements religieux qui ont des problèmes avec cela, et parce qu'ils se limitent à ce qui passe entre les deux oreilles, mais la foi nous permet de voir quelque chose de beaucoup plus vaste. Et là, c'est pour ça qu'il nous dit, d'un côté, il y a l'être humain qui intervient, Marie, et d'un autre côté, il y a le Saint-Esprit qui intervient, et donc le côté divin. Il nous dit, parce que le Saint-Esprit intervient, il sera appelé fils du Très-Haut, il s'appellera fils de Dieu. Parce que Marie est une descendante de David, eh bien, il aura le trône de son père David. Et les deux sont là. Et regardez avec moi dans 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Et donc, Paul est en train de parler d'un autre sujet, mais en passant, voilà ce qu'il dit. « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Mais il dit, « Mais Dieu manifesté en chair. » C'est ce que Jean disait dans son évangile, au premier chapitre, hein, « La parole a été faite chair. » Dieu manifesté en chair, ça c'est la première chose, et c'est important, c'est le premier principe, et c'est pour ça que la naissance de Jésus, elle est très particulière, et elle correspond à rien d'autre, parce que c'est Dieu qui est présent, en chair. Donc d'une part, et d'autre part, eh bien la Bible nous affirme que tout homme, descendant d'Adam est pécheur. Hein, chaque humain est pécheur. On est pécheur par la naissance, parce qu'on est fils d'Adam. On est pécheur par choix, parce que beaucoup de ce qu'on a commis, on a choisi de le commettre. Hein. Même si parfois on a dit, ah, j'ai pas fait exprès, j'ai pas voulu, c'était plus fort que moi, on a toutes sortes de manières, mais bon, c'était un choix, c'était notre choix. Et puis après, on est pécheur par notre pratique, hein, on a tous pratiqué le péché, on a des défauts, hein, c'est pas seulement, on a même des mauvaises habitudes. Hein. Pour que ce soit une habitude, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait plus d'une fois et qui se fait automatiquement. Donc on est pécheur par naissance. On est pécheur par choix, on est pécheur par pratique, et puis on est pécheur par nature. On a cette nature pécheresse qui est là, que nous avons héritée. Et Paul nous dit dans son épître aux Romains, il nous dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Comme ça, sans exception, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, on le reçoit par naissance. Donc, si Jésus était né d'un humain, de Joseph ou de n'importe quel autre, il aurait été pécheur et il aurait eu besoin d'un sauveur. Marie, elle, était née des humains. Et c'est pour ça qu'elle dira à Élisabeth, dans son cantique, elle parle de... C'est Élisabeth qui le dit, c'est la mère de mon sauveur qui est là. Hein, elle avait besoin, tous ceux qui sont nés d'un être humain, eh bien, nous avons cette nature pécheresse et justement, on a besoin d'un sauveur. Et parce que c'est vrai, eh bien, il fallait la naissance de Jésus et dans ces conditions-là. Parce que il fallait que Jésus soit homme pour être le sauveur des hommes. Il fallait qu'il soit homme parce qu'il y avait un gros problème, les conséquences d'une désobéissance. Hein. On connaît l'histoire d'Adam hein, qui a mangé du fruit et tout d'un coup, il s'est retrouvé nu et il y avait quelque chose en lui alors qu'il n'y avait rien autour de lui. Et il a senti le besoin de fuir et de se cacher dans le fond du jardin. C'est que quelque chose est arrivé en lui. Et suite à cette désobéissance. Donc Romains chapitre 5 et au verset 12, Romains chapitre 5 verset 12, et c'est pour cela que Jésus doit naître, justement à cause de cela. Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue vers tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà. Un a désobéi, il était le représentant de la race humaine, toute la race humaine est issue de lui, et bien, le péché est entré en lui, et il l'a transmis à tous. Et donc, l'être humain, hein, si ce n'était pas vrai, si on aurait pu nous sauver par quelque autre moyen, eh bien, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus-Christ lui faire subir ce qu'il a subi, rien que pour une démonstration de quelque chose. Mais c'est parce que c'était l'homme est pécheur. Chacun de nous, nous sommes pécheurs. Ce n'est pas une question de combien de péchés j'ai commis, c'est que je suis pécheur. Hein, je dis combien de fois est-ce qu'une personne doit mentir pour qu'il soit appelé un menteur? Combien de fois faut-il voler pour être un voleur? C'est pas une question de combien, c'est une question que nous sommes. Hein, excusez-moi, mais parfois on dit c'est les chiens aboient parce qu'ils sont chiens. Ils ne sont pas chiens parce qu'ils aboient. Hein, on dit, bon, il aboie, donc ça doit être un chien. Non, il est déjà chien, et c'est pour ça qu'il aboie. Et sauf que l'homme pêche, il n'est pas devenu pêcheur parce qu'il pêche, mais il est pêcheur, c'est pour cela qu'il pêche. Hein, il faut comprendre cela, et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons notre état devant Dieu, et nous comprenons nous voyons ce que Dieu a vu et pourquoi il s'est senti obligé d'intervenir et il va faire une chose extraordinaire, c'est de se faire et de passer par là où nous passons tous, par le sein d'une femme et naître. Jésus, pour expier le péché, parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, hein, c'est un principe que tout l'Ancien Testament nous enseigne. Et donc Jésus avait besoin de sang à verser pour notre péché. Hein, c'était le seul moyen, c'est le sang représente la vie, et donc le sang avait besoin, et Jésus avait besoin de son propre sang. Eh bien vous savez, hein, je ne vous apprends rien, un bébé, quand il naît, il n'a pas le sang de sa mère ni de son père, il a son propre sang. Hein, il peut appartenir à un groupe sanguin différent de ses parents. Il a son propre sang. Et Jésus, en naissant, il a reçu le corps, mais aussi il a eu son propre sang. Et même je vais vous faire lire un passage qui va peut-être vous étonner, mais Jean, Acte chapitre 20, et au verset 28, là aussi, encore une fois, il est en train de parler d'autre chose, mais il dit cela en passant. Acte 20, verset 28. Il parle aux responsables, il dit: prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau pour lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, d'accord, tout va bien jusque-là, qu'il, parle de Dieu, s'est acquise par son propre sang. C'est le sang de Dieu. Il dit cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Où est-ce que Dieu a eu du sang? Mais il est esprit, il n'a pas de corps. Mais par le moyen de cette naissance virginale, eh bien, il a pu obtenir un corps, obtenir son propre sang et avoir un sang pur à verser. Peter, waouh! Ben oui, mais c'était réduit à cela, et c'est pour cela que Dieu doit faire une naissance extraordinaire. Et il se sert de justement cette femme Marie, servante, disposée et prête à servir le Seigneur par ce moyen-là. Et donc là, bien Jésus, qui avait donc par la naissance, par cette naissance sans l'intervention d'un homme mâle, n'a pas reçu la nature pécheresse, mais par le biais de la femme a reçu un corps, a reçu du sang qu'il pouvait par la suite verser sur la croix pour obtenir notre pardon. C'est-à-dire, tous les détails sont importants, le mécanisme, et c'est le mécanisme qui respecte la pensée de Dieu et les moyens de Dieu et les principes de Dieu. Pour Dieu, les principes et les lois qui s'alignent sur sa sainteté et sa pureté sont plus importants que les lois de la nature. Les lois de la nature, pour lui, c'est secondaire. C'est d'abord qui il est et ce qu'il a besoin pour lui. Et c'est pour ça qu'il peut manipuler les lois de la nature pour faire ce dont il a besoin pour sa personne. Le sang de Jésus, qui était pur et qui l'a préservé pur, ça a été observé par les hommes pendant plus de 30 ans, et on a vu qu'il l'a préservé pur, et bien ce sang, et bien il a pu l'offrir à Dieu en sacrifice pour nos péchés. Et pour les péchés de tous et chacun. Dans 1 Jean chapitre 2, donc 1 Jean, premier épître de Jean, donc au chapitre 2 et au verset 2, une parole extraordinaire. 1 Jean, chapitre 2 et verset 2. Bon, je vais lire le verset 1 et 2, les versets 1 et 2, pour qu'on voit bien de qui il parle. Il dit donc 1 Jean, chapitre 2, verset 1, il dit: « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire, et peut-être vous avez une traduction où il y a marqué propitiatoire. Les deux sont vrais. Il est et expiatoire et propitiatoire. Expiatoire, ça veut dire que ça paye pour le péché. Propitiatoire, c'est quelque chose qui est propice, que Dieu peut accepter, qui est acceptable par Dieu pour son principe. Donc, il est lui-même, Jésus-Christ, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, nous en tant que chrétiens, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Christ, quand il est mort sur la croix, il est mort pour le péché de tous. Mais pour que cela soit possible, eh bien, cette naissance de Marie, dans les conditions dont a parlé l'ange Gabriel, eh bien, était nécessaire et indispensable. Et donc, Dieu lui-même est intervenu dans la lignée des hommes, et cette intervention, eh bien, c'est le sujet de cette grande joie dont on parlait tout à l'heure. Les anges au berger leur ont dit: « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. » Pourquoi est-ce qu'ils pouvaient le dire? Parce que Jésus est né dans les conditions dans lesquelles il est né, c'est-à-dire à partir d'une vierge et par l'intervention du Saint-Esprit. Et il était et Dieu et homme, et parce qu'il était et Dieu et homme, eh bien, il pouvait être le sacrifice pour nos péchés et en même temps être Dieu qui nous conduisait au Père. Donc, pourquoi la naissance de Jésus d'une vierge? Eh bien, parce que Jésus est venu du ciel pour nous ouvrir une voie vers le ciel. Et c'est pour ça qu'il pourra dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Mais tout ça, c'est pour ça qu'on fait un tel cas de la naissance de Jésus. Ce n'est pas parce qu'un bébé est né, c'est parce que le Sauveur est né. Et c'était, sinon la croix ne serait pas possible, il n'y aurait pas de résurrection, il n'y aura rien pour nous si Jésus n'est pas né dans les conditions dans lesquelles c'est arrivé. Et il nous est dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, il nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Il y avait une transmission. Il nous a transmis sa pureté, sa justice, et nous lui avons transmis notre péché. Et c'est ce qui est arrivé sur la croix, mais tout cela parce que Jésus est né de la Vierge Marie. Alors, je reviens à Romains chapitre 5, verset 19. Hein, nous avons lu verset 12 tout à l'heure, mais le verset 19 nous dit « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Hein, » c'est tout ce principe, c'est tout le message de l'Évangile, c'est le cœur de l'Évangile, c'est que en Adam, nous sommes tous pécheurs, et maintenant nous avons la possibilité, c'est un choix pour chacun d'entre nous, la possibilité de passer à une autre généalogie, hein, c'est d'appartenir au second Adam. Hein, donc il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il nous parle du second Adam. Hein, Jésus a été le commencement d'une nouvelle lignée par la foi. Et donc, c'est d'où l'apôtre Paul qui nous parle dans Éphésiens chapitre 1, il nous parle du fait d'être en Christ. En Christ, on a tout. Hors Christ, on n'a plus rien. C'est pas dans l'Église, c'est pas le fait dans le baptême, c'est pas dans le nom qu'on peut avoir. C'est en Christ. Tout est en Christ, tout est là. Et donc, ce qui est arrivé à Marie, hein, depuis la conception dans son corps jusqu'à la naissance, qui était étroitement surveillée par Dieu, même si on avait l'impression que c'était menacé et que ce n'était pas dans les bonnes conditions, mais les choses se sont passées comme elles doivent passer pour que Jésus puisse être notre sauveur. Sinon, si Jésus n'était pas né d'une vierge, comme ça l'est dit, comme l'ange l'a dit, eh bien, nous n'aurions aucune raison d'être là ce matin. On peut aller s'amuser, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais parce que Jésus est né, et pas seulement, il est né comme l'ange a dit, eh bien, tout s'ouvre, toutes les possibilités s'ouvrent. Hein? Bien sûr, il fallait la croix aussi, et il fallait la résurrection, mais là, c'était le commencement. C'est le départ essentiel, et c'est important. Et donc, c'est pas juste petit bébé mignon, c'est pas le petit Jésus, non, c'est pas ça. C'est Dieu est venu dans et il s'est soumis aux lois de la nature, il est devenu homme et le bébé souffre. La première expression de bébé quand il arrive dans le monde, c'est le cri, c'est le pleur, c'est la douleur. Et Jésus est passé par cela pour nous sauver. Hein, parce que Jésus avait dit à la femme, il a dit, tu concevras, ce sera dans la douleur. Et c'est toujours. Et Jésus est passé par là. Il a dit, je passe par là où vous êtes passé. Et puis, mais c'est pour vous délivrer. Et parce que après, vous obtiendrez ce que j'ai obtenu. Et il est dans les gloires célestes. Donc voilà Voilà le message que l'ange a apporté à Marie. Est-ce qu'elle l'a compris? Elle n'a pas compris, elle a dit « je ne comprends pas, mais je le crois, j'accepte, je suis ». Et c'est là où elle était un modèle extraordinaire et elle dit « qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur ». Et c'est finalement c'est l'attitude que nous devons tous avoir. Je ne comprends pas comment tout ça marche, mais qu'il me soit fait selon ta parole. Je veux être sauvé par toi, je veux être délivré par toi, je veux t'appartenir. Tu as fait tout ça pour moi. Écoute, Père, moi j'accepte tout et je veux vivre pour toi. Le vrai message de Noël, le message qu'a apporté l'ange Gabriel à Marie, cette jeune fille, peut-être encore adolescente, ce message que l'ange a apporté au monde et qui a été confirmé par les anges au berger, confirmé par l'Esprit Saint à Pentecôte, les apôtres qui n'avaient pas ça dans leur tête avant Pentecôte, tout d'un coup l'ont proclamé dans les rues et les transformations qui arrivent depuis. Voilà le vrai message, et n'oublions pas le vrai message, c'est ce que l'ange Gabriel a dit à Marie, qui explique tout. Et que le Seigneur nous donne la foi maintenant de non seulement croire cela, mais et de nous réjouir dans ce que Dieu soit venu, et qu'en la personne de Jésus, devenu notre Sauveur. Et maintenant, c'est à nous, s'il a fait tout cela, c'est pour que nous puissions vivre pour lui maintenant. Nous allons prier.